toute l'actualité, Jean-Baptiste Marot.
Tout de suite dans RFI Midi, à l'occasion du 30e anniversaire de la répression de la place Tiananmen, on ouvre une page spéciale consacrée à cet événement. C'était le 4 juin 1989 à Pékin, en Chine. Les chars du Parti communiste écrasés dans le sang, 7 semaines de manifestations étudiantes et ouvrières pour moins de corruption et plus de démocratie. Alors pour en parler, nous sommes avec Pierre Aski. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Aski, vous êtes éditorialiste chez nos confrères de France Inter, cofondateur du site Rue 89, président de Reporters sans frontières. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage Géopolitique de la Chine, paru aux éditions Erol. Merci d'être venu jusqu'à nos studios. Pierre Aski, première question. Pourquoi ces événements sont passés à la postérité, ces événements en Chine il y a 30 ans? C'est la seule fois que, depuis la création de la Chine populaire, que le pouvoir a failli vaciller à Pékin?
C'est surtout que ça a été un moment de choix pour la Chine, puisqu'il y avait à l'intérieur de la direction politique du Parti communiste deux lignes qui se sont affrontées, deux lignes assez claires. L'une réformiste ou d'ouverture, incarnée par le secrétaire général de l'époque, Zhao Ziyang, qui voulait négocier avec les étudiants, qui étaient conciliants, disons. Et l'autre, la ligne dure de l'orthodoxie, incarnée par le premier ministre de l'époque, Li Peng. Et les deux lignes se sont affrontées pendant toute la durée de ces événements. Et c'est le patriarche de l'époque, Deng Xiaoping, qui a arbitré, parce que c'est une période assez complexe. Dans l'après-maoïsme, les dirigeants qui ont fait la transition se sont progressivement retirés. Deng Xiaoping est très âgé, mais il a gardé ce pouvoir d'arbitrage. Et la règle, c'est que lorsqu'il y a un conflit à l'intérieur du comité central ou du bureau politique, c'est lui et les anciens qui arbitrent. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a arbitré en faveur de l'usage de la force, parce qu'il était très agacé par ce mouvement étudiant. Et surtout, il y a vu en germe la fin du monopole du Parti communiste et la possibilité de voir tout ce qui avait été construit pendant plusieurs décennies réduit à néant. Et donc c'est en ça que ça a du sens, c'est que la Chine d'aujourd'hui, celle de Xi Jinping, qui a gardé ce régime autoritaire et qui a fait ses réformes économiques, c'est celle qui est sortie de Tiananmen il y a 30 ans.
Alors Pierre Aski, est-ce que c'est finalement parce que vous disiez peut-être un moment de faiblesse dans le Parti communiste à l'époque, c'est pour cette raison aujourd'hui qu'on n'en parle plus, pas du tout en Chine, de ces événements du 4 juin 1989, qu'ils sont complètement tabous.
Moment de faiblesse, c'est comme ça que les dirigeants chinois actuels le décrivent, et ils font l'analogie avec Gorbatchev, avec le dernier dirigeant du Parti communiste soviétique, qui a lancé à la fois des réformes économiques, mais aussi des réformes politiques. Et ces réformes politiques, dans l'analyse qu'en a faite par la suite le Parti communiste chinois, ont conduit à la fin du pouvoir du Parti communiste et même à l'éclatement de l'URSS. C'est le cauchemar absolu vu de Pékin, vu du siège du pouvoir. Gorbatchev, c'est un gros mot aujourd'hui dans le vocabulaire chinois. Et donc, c'est cette faiblesse que s'interdisent tous les dirigeants chinois. Depuis 30 ans, tout nouveau dirigeant qui arrive au pouvoir en Chine doit prouver qu'il n'est pas un Gorbatchev chinois. Toute la presse étrangère attend en disant, est-ce qu'il sera le Gorbatchev chinois? C'est le rituel le marronnier des journalistes. Et les dirigeants chinois se demandent comment je vais pouvoir montrer que je ne suis pas le Gorbatchev chinois.
Alors, si on n'en parle pas en Chine, à Pékin, il en reste malgré tout quelque chose de ce printemps de Pékin. Est-ce qu'il y a un héritage qui est transmis?
Il y a un tabou absolu qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Et il y a un fantôme, en fait, qui plane au-dessus de la Chine et qui, d'ailleurs, justifie la nervosité des dirigeants. Parce que s'il ne se passait rien et si tout le monde avait oublié la place Tiananmen, il n'y aurait pas de raison pour que la Chine soit aussi nerveuse qu'elle l'est chaque année, et singulièrement cette année pour un chiffre rond. Ça fait des semaines qu'il y a de la surveillance, des arrestations, des éloignements de Pékin, des maires de la place de la place Tiananmen, etc. Et donc, ce fantôme, c'est effectivement celui d'une alternative, d'une autre voie possible, et qui viendrait contredire le discours tellement carré et tellement hégémonique qu'a aujourd'hui Xi Jinping, qui a tué dans l'œuf tout ce qu'il pouvait y avoir de société civile. Au début des années 2000, il y a eu une période assez grande où la société civile a commencé à élargir son champ. Moi, je viens de consacrer un livre et un documentaire à Liu Xiaobo, qui était un des hommes importants de la place Tiananmen, mais qui a aussi été prix Nobel de la paix en 2010. Liu Xiaobo avait tenté de, non pas de renverser le pouvoir comme ça avait été envisagé un moment sur la place Tiananmen, mais de le prendre par la bande, d'élargir cette place à la société civile. Il y a eu un coup d'arrêt, un premier coup d'arrêt en 2008, un deuxième en 2012 avec Xi Jinping. Il n'y a pas de place aujourd'hui pour ça, et c'est pour ça que Tiananmen, c'est un fantôme et un cauchemar, selon les analyses.
Une dernière question, Pierre Aski, en une minute, pas plus. On le disait, hein, dans le journal, depuis quelques heures, les 30 ans de Tiananmen sont l'occasion d'une nouvelle passe d'armes entre Pékin et Washington. Il faut aussi la lire à la lumière de l'actualité, cette passe d'armes, la guerre commerciale.
Alors le problème, c'est que Washington aujourd'hui instrumentalise notamment la question des droits de l'homme, que ce soit le sort des Ouïghours qui sont dans des camps de rééducation ou l'anniversaire d'un massacre. On sait très bien que c'est très éloigné des préoccupations réelles de l'administration américaine, et donc c'est un argument dans cette guerre commerciale qui est contre-productif parce qu'il ne fait qu'alimenter le nationalisme chinois qui est lui-même une des réponses du pouvoir à ce risque de contestation. Donc oui, c'est un des éléments de cette guerre, mais assez médiocre, il faut bien le dire.
Merci beaucoup, Pierre Aski, de nous avoir rendu visite aujourd'hui à RFI. Je rappelle que vous êtes éditorialiste à France Inter, cofondateur du site Rue 89, et que vous avez également écrit l'ouvrage Géopolitique de la Chine, paru aux éditions Erol. Merci beaucoup. Merci.